Chers amis, nous allons lire deux passages pour introduire notre deuxième étude. Colossiens chapitre 2, les versets 4 à 7. Colossiens chapitre 2, versets 4 à 7. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Le second texte, dans la deuxième lettre de Pierre, c'est-à-dire vraiment vers la fin du Nouveau Testament, de Pierre, au chapitre 2, dont nous lisons les trois premiers versets. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 2, les versets 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement, insidieusement, des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Nous sommes donc à Colosse, dans l'actuelle Turquie, en compagnie d'une jeune église fondée dans les années 50, pas 1950, mais 50 tout court, aux alentours de l'an 55. Aux environs de l'été 62, cette église reçoit une lettre de la part de l'apôtre Paul, emprisonné à Rome, qui a appris par Épaphras, son principal conducteur, que cette église vit des moments difficiles. Elle est en danger de se laisser séduire par les discours subtils de prédicateurs itinérants. Ces faux docteurs s'inspirent de plusieurs courants philosophiques, religieux, en vogue, dans le bassin méditerranéen pour présenter ce qu'ils appellent une sagesse supérieure et ce que nous appellerons un œcuménisme attrayant. En réalité, ils proposent un évangile au rabais, soldé, dénaturé, amoindri, avec un mini-Christ, défiguré, diminué, rabaissé, qui n'est plus Dieu, mais une mini-divinité. Et nous développerons cette question demain matin. La lettre de Paul, c'était notre conclusion de la première étude, contient d'abord quatre mises en garde énergiques contre les diverses facettes de cette grave déviation se manifestant dans l'église de Colosse. Et nous avons remarqué ensemble tout à l'heure ces quatre « que personne » chapitre 2, verset 4, chapitre 2, verset 8, chapitre 2, verset 16 et chapitre 2, verset 18. que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Disons que cette remarque et cette caractéristique aussi qualifie, décrit l'effet des philosophies trompeuses, du légalisme, de l'ascétisme, de l'illuminisme, de l'extrémisme doctrinal qui apparaissent dans le texte. Ce que je veux dire par là, c'est que l'apôtre Paul s'intéresse au fait que il existe des discours très séduisants, à la fois dans leur forme et dans leur fond. C'est ce qui va nous intéresser partiellement ce soir. Alors, j'aimerais en quelque sorte vous demander dans un premier moment de réfléchir à vos ambitions. Avez-vous une saine ambition dans votre marche avec le Seigneur? C'est-à-dire, êtes-vous assoiffé du meilleur de Dieu? Êtes-vous désireux de pénétrer davantage dans son intimité? Désirez-vous surtout ne pas vous contenter de médiocrité? Êtes-vous désireux de devenir un croyant plus consacré? Ou encore, êtes-vous à la recherche du bonheur? Avez-vous soif de bonheur? Êtes-vous un insatisfait qui ne se satisfait pas de son insatisfaction? Si vous êtes dans l'une ou l'autre de ces situations, alors vous êtes en danger. Alors vous êtes en danger. C'est là que vous risquez gros. C'est là que vous risquez précisément, à cause de votre soif, de vous laisser prendre par un message à sensation, un message original, sortant de l'ordinaire, contenant un quelconque secret en vue d'une bénédiction. Et si une personnalité attrayante, réputée pour sa spiritualité, se présente sur votre route avec un message de ce type, avec surtout un message nouveau, cela va susciter un engouement et un succès presque certain. C'est incroyable de voir combien ce qui est nouveau exerce comme fascination sur l'homme et en particulier aussi sur les croyants faibles. Je prends un exemple, je ne veux faire de peine à personne, mais je n'ai pas à cacher mon drapeau. Voilà un livre, best-seller évangélique depuis des années. C'est un de ces best-sellers qui durent, qui a d'ailleurs eu deux tomes, si je me souviens bien, qui lui ont fait suite, de la prison à la louange. Quand j'ouvre ce livre, je lis dans la préface, on ne lira pas ce livre on le dévorera. Car il fait suivre au lecteur pas à pas le chemin sinueux d'une vie peu ordinaire. Un parachutiste, expert en sabotage durant la Seconde Guerre mondiale, condamné pour désertion et vol d'usage, qui devient pasteur puis aumônier militaire. Mais surtout, l'auteur veut vous faire partager pas à pas aussi sa découverte du secret de la louange. Dire merci à Dieu en toute chose. Non pas malgré toute chose, mais pour toute chose. Vous savez, quand il écrit, ou le préfacier écrit toute chose, c'est le tout le plus absolu qui soit. Des pages mouvementées, des pages surprenantes parfois. Mais qu'on ne s'offusque pas, c'est de l'authentique, ça c'est espagnol, du vécu. C'est la façon de l'auteur d'exprimer sa foi. Une foi qui libère la puissance de Dieu. Et cette foi, il vous la communique, elle vous fortifie, elle vous fait pénétrer dans un monde nouveau. Un livre qui, sans exagération, a révolutionné notre vie et celle de milliers d'autres, en leur donnant une dimension toute nouvelle, une vision toute nouvelle d'un Dieu et Père souverain aimant qui s'occupe de tous les détails de notre existence. Voilà la démonstration, là déjà. Vous vous rendez compte, vous êtes à la recherche, hein, vous avez soif. Vous lisez ça? Oh, quelle pub! Et pourtant, je n'hésite pas à le dire, je vous en ferai un petit peu la démonstration partielle. D'ici demain après-midi, c'est un livre qui est constellé de problèmes. Et je n'hésite pas à dire à qui que ce soit, il est constellé de problèmes, il y a plusieurs dizaines d'erreurs doctrinales, dont certaines erreurs absolument fondamentales. Vous avez peut-être remarqué dans la lecture, si vous avez pris soin de lire un petit peu l'Épître aux Colossiens, vous avez peut-être remarqué le vocabulaire que Paul utilise dans ce chapitre 2. Il y a des mots qui sont très proches en signification, qui reviennent sous sa plume. Il est question, dans le chapitre 2, verset 4, de discours séduisants. Au verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par une philosophie et par une vaine tromperie. Par une creuse du prix, aurions-nous pu traduire, ou encore par un appât vide, c'est la traduction la plus proche du texte original. Si vous allez au verset 18, que personne sous une apparence d'humilité, apparence ou encore prétexte d'humilité, apparence, prétexte, ces gens qui font les humbles, traduira quelqu'un. Si vous allez au verset 23, il est question de ces docteurs, faux docteurs, qui ont en vérité une apparence de sagesse. Une apparence de sagesse. Ils font figure de sagesse. Ils ont une réputation extérieur, bien sûr, de sagesse. L'apôtre Paul, donc, insiste, je dirais presque lourdement, sur le danger des apparences. Le problème d'un regard ou d'une écoute superficielle. J'ai relevé dans mon étude personnelle près de 40 passages principaux, évoquant la séduction, la ruse, dans le Nouveau Testament. Il faut quand même savoir que la majorité des livres néo-testamentaires ont été écrits précisément dans le but d'aider le disciple de Christ à se recentrer et de dénoncer des courants dangereux dans lesquels les apparences avaient beaucoup d'importance au début de l'ère chrétienne. Alors, j'aimerais donc, à partir de cette constatation, passer du temps avec vous pour m'arrêter précisément sur ce piège des apparences, en particulier au niveau de ces discours séduisants, le piège des apparences. Prenons un exemple qui est presque une Marseillaise biblique. Le vieillard Samuel, un homme de Dieu, de grande expérience, mandaté par Dieu pour se rendre dans le petit village de Bethléem pour y désigner le successeur de Saül, le premier roi d'Israël, le roi déchu. Il a une longue expérience derrière lui. Il a vécu des situations extrêmement difficiles. Et pourtant, vous savez comment, dans 1 Samuel 16, versets 6 et 7, lorsqu'il voit s'approcher de lui les fils d'Isaïe, Dieu est obligé de l'arrêter aussitôt, dès le départ, dès les premières pensées exprimées. Il voit le grand, beau personnage, Eliab, l'aîné, c'est lui, ça ne peut être que lui. Il a le physique de l'emploi. Et Dieu lui dit, tu te trompes. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'Éternel regarde au cœur. Et heureusement, parce que on sait, si on analyse le texte, notamment du chapitre 17, du premier livre de Samuel, on peut deviner une des raisons fondamentales pour lesquelles, par exemple, Eliab n'a pas été choisi par l'Éternel. Mais je ne vais pas vous le donner, à vous de le chercher. Et c'est finalement, vous le savez, le petit dernier, le grand absent, qui était beau lui aussi. Le texte le dit, pour que nous n'ayons tout de même pas de mépris de la beauté. Parce que nous serions tentés, à la lumière de ce que Dieu dit à Samuel, de tomber dans une espèce d'extrémisme, considérant que pour être bien aux yeux de Dieu, il faut être laid. Alors je me réjouis de ce que Dieu à la fois dit, non, Dieu regarde au cœur, je regarde au cœur, mais qu'en même temps, David était quelqu'un qui présentait bien. Simplement, aux yeux de Dieu, ce n'était pas l'essentiel. Ce n'était pas de la surface, à partir de la surface de l'individu, qu'il fallait juger. Alors, nous pourrions évoquer tous les regards superficiels de notre temps, tous ces jugements faciles, la manière dont les spécialistes en communication, en publicité, exploitent au maximum notre propension, notre tendance à attacher beaucoup d'importance à ce qui frappe les yeux. D'ailleurs, ce n'est pas une science nouvelle. Autrefois, les Chinois et les vendeurs chinois qui allaient de lieu en lieu pour vendre, par exemple, des objets de jade, avait une technique très simple, il présentait l'objet, il faisait miroiter sous les yeux de la personne et il regardait les yeux. Et si les pupilles de leur acheteur potentiel se dilataient, il savait alors qu'il pouvait, en continuant à mettre en œuvre leur stratégie, aller beaucoup plus loin parce qu'il les avait amorcés. Il existe même un pupilloscope, qui est maintenant d'ailleurs dépassé, mais c'est un instrument utilisé par les publicistes pour examiner ce qui se passe au niveau des pupilles lorsque vous regardez une publicité. Alors, j'ai lu cette histoire d'une firme qui lance comme nouveau produit des frites congelées. Et pour donner envie d'acheter les frites congelées. On présente dans cette publicité de magnifiques frites bien dorées, tout ce que vous voulez, avec un beefsteak et de la salade. Et le pipioscope, dans un premier temps, fonctionne très bien, puisque les regards convoitent à un niveau particulièrement élevé ce nouveau produit. Et pourtant, au grand désespoir des lanceurs de ce nouveau plat, ça va être le floupe, le gâchis le plus épouvantable. Si bien qu'on dit, mais comment se fait-il? Le pupilloscope avait donné de bonnes indications. Alors on creuse un peu plus et on se rend compte que, par le biais du pupilloscope, les pupilles se dilataient non pas au regard des frites, mais au regard du beefsteak. C'est une histoire vraie. Et nous pourrions ainsi prendre quantité d'autres exemples. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que le Seigneur Jésus ait été rejeté lors de son passage parmi les hommes en Israël, en partie à cause de ce regard superficiel. Ce n'est pas moi qui l'invente, puisque dans Ésaïe 53, versets 1 et 2, il nous est dit: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et des milliers de personnes en Israël se sont complètement fourvoyées. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient des critères de jugement, d'évaluation qui étaient superficiels. Et des millions d'individus aujourd'hui, dans notre pays et ailleurs dans le monde, se trompent quotidiennement, précisément aussi à cause de ces critères d'évaluation qui sont figés sur les apparences. Dans le livre des Actes, au chapitre 20 et dans les versets 28 à 31, l'apôtre Paul, dans un discours plein d'émotion aux anciens de l'église d'Éphèse que nous évoquions tout à l'heure, dans le port, pas très loin, à peu de distance d'Éphèse, acte 20, à partir du verset 17, donc s'adresse à eux, parle de son ministère, et il leur dit dans les versets 28 à 31, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, surveillant. » Pas dans le sens que l'on donne au terme évêque actuellement, loin de là. C'était une manière, je dirais, grecque de parler du ministère de l'ancien ou de celui qui paie le troupeau, du pasteur. Ce sont des termes équivalents. Sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître, voyez, le pasteur, l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sens. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Oh, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter ou d'avertir avec larmes chacun de vous. Il s'introduira après mon départ des loups cruels. S'introduira. Bien entendu, ils ne vont pas se présenter comme des loups. Et là, je suis persuadé que l'apôtre Paul est imprégné de l'enseignement de Jésus, et notamment de l'enseignement de Jésus dans ce que j'appellerais la charte du royaume des cieux, plutôt que le sermon sur la montagne. C'est un petit peu, on pourrait dire, non pas la constitution de 1958, mais la constitution du royaume des cieux, à laquelle nous n'avons pas le droit de toucher. Les règles qui gouvernent au fonctionnement du royaume de Dieu. Et dans ce texte de Matthieu 5 à 7, la conclusion est intéressante. Au chapitre 7, hein, Matthieu chapitre 7, ça appartient à toute la conclusion. Alors il est d'abord question, verset 13, entrée par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Alors aujourd'hui, dans l'Église, même dans l'Église de Jésus-Christ, on élargit les portes le plus possible. On voudrait tellement que tous entrent. Alors, on élargit. Ça n'a pas changé. Il est dit, il y en a peu qui le trouvent. Je suis désolé, la Bible le dit, Jésus disait, il y en a peu qui le trouvent. Pourquoi vouloir à tout prix penser autrement que Jésus? Il y en a peu qui le trouvent. Alors on élargit de plus en plus, n'est-ce pas? Pour que le maximum le trouve. Je crois que nous devrions simplement rester sur le terrain des Écritures, ça c'est pas notre problème. Notre problème c'est d'être fidèle. Vous savez que la FIFA, la Fédération Internationale de Football, il y a quelques années, a proclamé, a décidé, a décrété que les bois, vous savez, les buts sur les terrains de foot auraient une certaine distance en plus en haut et puis en longueur parce qu'on ne marquait pas assez de buts. Il ne faut pas que nous fassions cela, n'est-ce pas? Et on arrive à ce verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes ». Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Voilà à quoi l'apôtre Paul pensait. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, un problème jaillit immédiatement. Mais les fruits, qu'est-ce que c'est? Parce que certains vont argumenter en disant, ben, les fruits, ce sont les miracles. Les fruits, ce sont ces opérations absolument extraordinaires, bouleversantes, qui changent le cours d'une existence. Et c'est à cause du risque de confusion au niveau de la signification du contenu du mot fruit que Jésus, dans sa sagesse parfaite et dans son discernement parfait, va plus loin. Il anticipe et en même temps il discerne ce qui se passe au fond du cœur de certaines gens. Et donc il ajoute « ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Ça veut dire que les fruits, ce n'est pas d'abord une confession de foi orthodoxe. Vous pouvez avoir la meilleure confession de foi dans votre église et vous faire embarquer par les faux docteurs. Il existe une orthodoxie qui peut être morte. Et on se réfugie derrière cette orthodoxie. Seigneur, Seigneur, toutes les déclarations de foi. Alors que la vie n'est pas là. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc sur un plan général, les fruits doivent être l'expression reconnue, visible, de la volonté de Dieu telle qu'elle s'inscrit dans les Écritures. Que ce soit au niveau des œuvres, toute notre pratique, que ce soit au niveau de notre caractère, ce qui est absolument fondamental dans les Écritures, à savoir le fruit de l'Esprit. Et pas les fruits de l'Esprit. Dès que nous commençons à déraper, que nous parlons des fruits de l'Esprit, nous commençons à ne plus être centré sur Christ. C'est-à-dire que nous dissocions ce qui est indissociable. Nous pouvons donc, à partir de là, avoir une joie dans laquelle nous faisons sauter les plombs. Pourquoi ? Parce que nous sortons de la joie du contexte du fruit de l'esprit, parce que dans le fruit de l'esprit figure une colonne vertébrale qui s'appelle, c'est le dernier élément du fruit de l'esprit, la force intérieure ou la maîtrise de soi, ou encore le vieux mot, la tempérance. Et si Dieu nous dit le fruit de l'esprit, c'est qu'on ne peut pas dissocier la vraie joie de la force intérieure, de la maîtrise de soi. Parce que tout cela, ça fait partie du caractère de Christ. C'est une miniature du caractère de Jésus-Christ. Et Dieu n'est pas un épicier qui va me donner 10 kilos de joie, 5 kilos de ceci. Non. Il développe progressivement dans ma relation avec son fils Jésus-Christ, il développe un caractère dans son ensemble. Et ça, c'est un des éléments énormes, je dirais, de repère entre les vrais et les faux. Développe-t-il le fruit de l'esprit qui est présent à chaque page des Écritures? Alors Jésus continue à préciser, plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » C'est impressionnant. Le ministère prophétique qui est un ministère très important, je ne peux pas entrer dans tous les détails maintenant, et qui consiste, si on le prend dans son sens large, à édifier, à consoler, à exhorter l'Église de Jésus-Christ, 1 Corinthiens 14. Je ne parle pas du sens étroit qui, à mon avis, largement disparu, mais je ne veux pas en parler maintenant. Il est question d'exorcisme, de chasser des démons dans le nom du Seigneur Jésus. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Or, Jésus va répondre, « Je ne vous ai jamais connu. » Connaître. Je ne suis jamais entré dans une relation étroite avec vous. Vous n'êtes jamais entré dans mon intimité. Nous n'avons rien partagé ensemble. C'est ça, hein, nous l'avons vu dans la première étude. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Alors bien sûr, prophétiser, chasser des démons, faire des miracles, il y a de quoi se faire avoir. Il y a là tout un aspect séduisant, où extérieurement on pourrait dire, mais c'est pas possible. S'il y a des miracles, qui est derrière ces miracles? Ça ne peut être que Dieu. Manque de peau, le diable en fait aussi. Et même il les multiplie dans la fin des temps. Prenez des textes comme Matthieu chapitre 24 verset 23-24 avec le règne de l'Antichrist. Des miracles, on en aura à l'appel. Et d'autres textes dans Thessaloniciens 2, Thessaloniciens 2 verset 9 et 10. Écoutez la remarque d'un théologien évangélique actuel sur ce texte. Il écrit ceci: alors que les chiens et les porcs sont relativement facile à reconnaître du fait de leur attirance pour la saleté, les loups, eux, se glissent dans le troupeau sous l'apparence d'une brebis. Les imprudents les confondent avec le reste du troupeau et les accueillent. Souvent, leur vraie personnalité n'apparaît que lorsque le mal est déjà fait. Un faux docteur ne se fait pas de publicité comme diseur de mensonges, on y reviendra demain. Au contraire, il se targue d'enseigner la vérité.
D'autre part, il dissimule ses sombres intentions sous un vêtement de christianisme et il sait, écoutez bien ceci, hein, ça choque, hein, il sait que les chrétiens forment un peuple crédule. On va y revenir tout à l'heure. Il compte ne pas être démasqué dans son habit d'innocence. Et il ajoute, mais on ne va pas développer ça maintenant, parfois il y ajoute même le langage de l'orthodoxie historique en lui donnant un sens différent, alors je vous en ferai des démonstrations demain. D'autres fois, il se cachera sous la couverture de titres académiques impressionnants. Gardez-vous, dit Jésus, être sur nos gardes, c'est demander à Dieu son discernement, utiliser nos facultés critiques et ne jamais relâcher notre vigilance. L'apparence extérieure d'une personne, son charme, sa formation, ses titres, ses distinctions ecclésiastiques, ne doit pas éblouir les disciples de Christ. Derrière le docteur en théologie, le professeur ou l'évêque, ils doivent apprendre à voir s'il y a un agneau ou un loup. Alors, creusons un peu cette question, on plonge peu à peu en profondeur dans notre réflexion. Hein. On va d'étape en étape un peu plus profondément. Prenez un texte dans Romains au chapitre 16, dans la conclusion de cette épître, qui est pourtant un exposé magnifiquement bien bâti. Il y a quand même, l'apôtre Paul n'a pas pu s'empêcher, conduit par Dieu qu'il était, de faire allusion à notre sujet. Romains 16, versets 17 à 19. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, de belles paroles. Le texte est très intéressant sur ce plan. Des belles paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Oh, je suis heureux que l'apôtre Paul ait conclu une épître tellement bien bâtie, hein, la cathédrale de la foi chrétienne, un exposé incroyable, par cette intervention qui change de ton, en fait, par rapport au reste. Ayez l'œil ouvert, dit l'apôtre Paul. Prenez garde. Et il évoque, vous l'avez remarqué, les simples, ils séduisent les cœurs des simples. Moi qui croyais qu'il fallait être simple. Il est bien dit qu'il faut avoir la simplicité de la colombe. Or ici, ils séduisent les cœurs des simples. C'est-à-dire des croyants sans malice, des bonnes âmes naïves, facilement dupes, sans malice et se refusant à en voir chez les autres. Vous comprenez, notre problème, c'est le problème de l'amour. Si j'aime quelqu'un, il ne faut surtout pas que je soupçonne le mal. Hein? Alors avec ça, on se fait rouler du matin au soir parce qu'on n'a pas compris ce qui est dit dans 1 Corinthiens 13. Parce que lorsqu'il est dit dans 1 Corinthiens 13 que nous l'avons traduit ainsi, l'amour ne soupçonne point le mal, en réalité, l'amour ne fait point une sorte de comptabilité du mal. Il n'est pas, si vous voulez, suspicieux de nature. Il n'est pas là, vous savez, comme avec un radar, hein, à la recherche, comme le chat qui est à l'entrée du petit trou, prêt à sauter sur la souris. Vous savez,
Vous avez comme, parfois, hélas, des personnes et aussi des croyants qui... Il semble que leur nez ne leur serve que à essayer de repérer le mal. Alors ils sont incapables de penser que le bien existe encore, qu'il y a la possibilité chez un croyant même de faire le bien. Ils deviennent des êtres extrêmement négatifs et ce sont généralement des chrétiens gémissants au lieu d'être des chrétiens bénissants. Alors Dieu ne veut pas que nous soyons de ces disciples de Christ qui, constamment, sous pression, agressifs, suspicieux, faisions la comptabilité. Hein, il a fait ceci. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ça appartient à l'esprit de jugement, à l'esprit de critique. J'ai pas dit l'esprit critique. Justement, notre problème, c'est d'avoir confondu les deux. Nous n'avons pas le droit de faire preuve d'esprit de jugement. C'est-à-dire d'avoir comme but de détruire les autres. Je les juge pour les détruire. Je les regarde du haut de ma personne, du haut de mon 31 évangélique. Je dis, oh les pauvres. Cet esprit pharisaïque, destructeur, dont le point de repère, c'est moi. Alors que l'esprit critique, au contraire, c'est la nécessité du véritable disciple de Christ, parce que dans 1 Corinthiens, mais dans d'autres textes, il est dit que l'homme spirituel juge de tout. C'est-à-dire qu'il jauge. Mettez le A de l'amour dans juge, pour comprendre le sens. Il jauge parce qu'il faut jauger, il faut évaluer, il faut discerner, il faut prendre la mesure. Si on ne veut pas se retrouver dans des situations catastrophiques ou entraîner d'autres personnes dans des situations catastrophiques, vous comprenez? Alors aujourd'hui, il ne faut pas juger. Aujourd'hui, il ne faut pas juger. Il faut déjà commencer par se juger soi-même, disent les Écritures 1 Corinthiens 11, etc., n'est-ce pas? Et il faut évaluer. Notre problème, c'est de ne pas nous tenir strictement sur le terrain des Écritures et de sortir ici et là des petits morceaux hors de leur contexte, auquel nous faisons dire tout et n'importe quoi, sauf la vérité. Donc, être simple, c'est être en quelque sorte d'une bonté qui confine à la bêtise. Bon et bête commencent par la même lettre. Parce que dans les Écritures, je l'écris dans mon dernier livre sur Barnabas, où j'examine la bonté de Barnabas. Être bon dans les Écritures, dans le fruit de l'Esprit, c'est vrai, avoir le souci d'apporter une aide, d'être bienveillant, de vouloir le bien de l'autre, mais jamais au détriment de l'intégrité, de la lumière, de la vérité. C'est-à-dire, je veux bien t'aider. Mais ne me demande pas de t'aider avec des dessous de table et de la magouille. Je reste dans la lumière. Vous comprenez? Alors quand on ne va pas près des Écritures pour voir ces choses, il est évident qu'on conserve de la bonté une notion païenne. D'ailleurs, le problème, c'est que chez les Grecs, bonté et beauté allaient de pair. Quand quelqu'un était beau, on était tenté de dire qu'il était bon. Et Jésus a complètement renversé cette ordre en disant, mais c'est pas vrai, ça c'est l'esthétique grecque, c'est la philosophie grecque, mais ça n'a rien à voir avec ce que mon père et ce que moi je considère comme la véritable bonté. Tu peux être complètement moche de l'extérieur et avoir un cœur bon, parce qu'habité par le Saint-Esprit, parce que transformé par la grâce de Jésus-Christ. Oh, prenons d'autres textes qui vont dans le même sens. Proverbe 14, verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Ou encore Proverbe 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement ou la prudence. Et je possède la science de la réflexion. Ou encore Proverbe 22, verset 3, « L'homme prudent voit le mal et se cache, les simples avancent et sont punis. » C'est-à-dire qu'il n'évalue pas. Il y a un piège, il tombe dedans. Simplement par naïveté. Notre problème, c'est que nous ne réalisons pas combien, surtout, si, je dirais, nous n'avons pas été ce qu'on appelle des pécheurs scandaleux. Celui qui a vécu, je dirais, une licence et un doctorat dans le mal le plus extrême, qui vraiment a pratiqué le mal, celui-là, quand il se convertit à Jésus-Christ, il fait attention après. Il connaît les ficelles. Il sait combien on est ingénieux au mal parce qu'il l'a pratiqué, ce mal-là. Vous comprenez? Mais quand on n'a pas cette expérience, on imagine très mal de quoi l'homme est capable. Vous savez, il m'a fallu entendre pendant, maintenant ça fait 30 ans que je vis mon ministère, il m'a fallu entendre certaines confessions personnelles pour me dire, tiens, j'avais jamais pensé à ça. Je me suis rendu compte combien mon propre cœur aurait pu me conduire à des choses scandaleuses si je n'avais pas connu Christ tôt, en écoutant certaines confessions. De gens qui sont allés vraiment jusqu'au bout, hein. Et vous sortez parfois secoué, et vous avez besoin de la grâce de Dieu quand vous entendez certaines choses. Être sage, dit le texte, verset 19, pour vous, votre obéissance est connue de tous, je me réjouis à votre sujet, je désire que vous soyez sage en ce qui concerne le bien. Nous sommes exhortés à être sages en ce qui concerne le bien. La sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Ben, la sagesse, dans le sens biblique, est un sens. Nous avons des sens, vous les connaissez, et il y a ce sens-là. Le sens de la vérité, du bon, du juste, du divin, c'est ce que j'appellerais le bon sens de l'âme. Et c'est un sens perdu. Dieu seul peut nous le restituer, et c'est intéressant parce que le nom antique de la sagesse, même en français, c'est la sapiens. Hein, autrefois, on parlait de la sapiens. D'ailleurs, on parle encore aujourd'hui des livres sapientiaux, les livres de la sagesse. Et en latin, sapiens et sapere sont de la même famille. Et sapere, le verbe sapere en latin, veut dire à la fois avoir du goût et être sage. Alors c'est intéressant parce que si vous voulez, justement, là, on pourrait dire que la sagesse, ce sont les papilles gustatives de l'âme. C'est bon? C'est pas bon? Alors, si nous voulons que nos papilles gustatives de l'âme soient en bon état, il faut faire attention. Il est évident que celui qui se nourrit du matin au soir de télévision, il risque d'avoir des problèmes avec ses papilles gustatives pour le discernement. Et nous pourrions ainsi continuer la sagesse et donc la saveur de l'âme. C'est un organe extraordinaire dont Dieu nous pourvoit, mais qui doit être entretenu et qui a cette particularité, c'est que le chemin qu'il parcourt dans la vie du croyant est inverse à ce qui se fait dans le monde. Dans le monde, avec l'âge, on a des problèmes avec les papilles gustatives. Lisez Ecclésiaste 12, n'est-ce pas? La capre n'a plus de goût, hein? Mais au contraire, en tant que disciple de Christ, plus je marche avec Christ, plus j'avance avec lui, plus j'ai d'expérience avec lui dans sa parole, plus mon sens, mon bon sens de l'âme, ma sagesse, va se développer. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein? Notre corps extérieur se détruit, mais l'intérieur se renouvelle, et au contraire, va de plus en plus loin, notamment dans le domaine de la sagesse. Le prince des prédicateurs, Spurgeon, écrivait ceci: la sagesse est la juste utilisation de la connaissance. Connaître n'est pas être sage, sauf la connaissance telle que nous l'avons évoquée tout à l'heure. Hein. Là, il s'agit de la connaissance académique, hein, intellectuelle. Connaître n'est pas être sage. Bien des hommes ont beaucoup de connaissances au pluriel. Ils sont pour cela de plus grands insensés. Il n'existe pas de plus grand insensé qu'un insensé rempli de connaissances. Mais savoir comment utiliser cette connaissance, c'est avoir de la sagesse. Donc, nécessité d'avoir du bon sens, de la prudence, de la clairvoyance, de savoir discerner la corruption sous les beaux dehors, de ne pas s'attacher aux apparences, au déguisement. Proverbe 26, verset 23-26. Par ses lèvres, celui qui hait se déguise. Il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a cette abomination dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Encore faut-il que cette assemblée soit en bonne santé. Et alors, toujours dans le verset 19, « Soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. » Pur, ça c'est très intéressant ici, littéralement sans mélange. « Soyez sans mélange en ce qui concerne le mal », c'est-à-dire sans compromis. Sans indulgence, sans hésitation, rompez immédiatement de manière radicale, ayez une haine de chaque instant vis-à-vis du mal. Pas de discussion possible. Écoutez, réfléchissez un instant. Est-ce que ce n'est pas exactement l'inverse de ce qui nous tente? Nous, nous sommes tentés d'être diplomates avec le mal. Hein? C'est pas vrai. Par contre, avec le bien, nous prenons tout de suite. Et l'apôtre Paul dit non, dans la vie chrétienne, c'est l'inverse. C'est en cela que la vie chrétienne est révolutionnaire. C'est que cette équation que vous avez est fausse. C'est l'inverse. Soyez prudent quand vous êtes en face du bien. Dites-vous, mais est-ce que c'est vraiment aussi bien qu'il y paraît ? Par contre, quand on essaye de vous emmener dans la magouille, dans le mal, alors là, soyez clair. Là, soyez des chrétiens qui font preuve de radicalisme, qui sont sans compromis. Vous savez, l'apôtre Paul, certainement, évoquait encore une parole de Jésus dans Matthieu 10, verset 16, que j'ai évoqué moi aussi tout à l'heure. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups », c'est le même thème. Hein? Soyez donc prudent comme des serpents et simple comme les colombes. Soyez donc prudent comme les serpents. Attention, pas rusé. Il y a eu même des mauvaises traductions bibliques qui ont rendu par rusé. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce mot. Le mot rusé est un mot particulier dans le langage grec du Nouveau Testament qui ne figure pas ici. Par contre, le mot qui est utilisé ici est souvent utilisé dans le Nouveau Testament et signifie être avisé, être plein de bon sens, être sensé, être sage. Et ensuite, c'est intéressant, soyez simple comme les colombes. C'est exactement le même mot que nous venons de développer lorsqu'il est dit pur en ce qui concerne le mal. C'est le même mot dans le texte grec. C'est-à-dire, soyez sans mélange. Soyez simplement sans mélange. D'où le terme qui est parfois utilisé, soyez candide, mais de la candeur de la colombe, c'est-à-dire de sa teinte blanche. Vous comprenez? Soyez propre, soyez pur. C'est exactement la même parole que Jésus utilise et que, finalement, l'apôtre Paul reprend en des termes, pour certains d'entre eux, un peu différents. Allier la prudence du serpent à la simplicité, à la blancheur, à la pureté de la colombe. Prenons encore un autre texte, nous allons vers la fin peu à peu, mais nous enfonçons le clou, parce que c'est un thème très très important, 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, dans cette fameuse trilogie, trois chapitres complets qui traitent de l'exercice des dons, mais autour de l'axe du fruit de l'esprit. Et donc dans le chapitre 14, un verset très important, c'est le verset 20, où il nous a dit, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Alors il y a ici une petite nuance qui n'apparaît pas forcément Dans le texte français, bon, il n'y a pas besoin de faire forcément du grec pour comprendre ces choses, parce que je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, un texte biblique s'éclaire par un autre texte biblique. Enfin, c'est quand même intéressant de savoir qu'ici, l'apôtre Paul utilise deux fois le mot « enfant », hein, au verset 20, et nous pourrions penser qu'il s'agit chaque fois du même terme, puisqu'en français, c'est le terme « enfant ». Or, il se trouve que dans le texte original, il y a une différence entre les deux. Le premier terme, « frère, ne soyez pas », nous pourrions dire « des enfants de moins de 7 ans », ou encore, disons, qui ne sont plus des petits bébés et qui ne sont pas encore des adolescents. Vous voyez, on va donner une tranche suffisamment large. Hein. Ils ne sont plus des petits bébés, mais ils ne sont pas encore même des préados. Une tranche d'âge qui va peut-être de 4-5 ans, disons, jusqu'à 8-9-10 ans. Bon, ça va dépendre un peu des enfants aussi. Alors, frères, ne soyez pas de ces enfants-là sous le rapport du jugement, c'est-à-dire quand vous devez évaluer, quand vous raisonnez, quand vous prenez des mesures, quand vous essayez de discerner, eh bien, ne soyez pas des enfants de moins de 7 ans dans cette tranche-là. Pourquoi ? Parce que dans cette tranche d'âge, on le sait, ça a toujours été comme ça, l'enfant est très sensible aux apparences. Et on a beaucoup de peine avec les enfants à leur dire, écoute, ne te laisse pas avoir. Vous savez, vous allez dans un magasin avec des enfants de cet âge, hein, la couleur, le brillant, vous comprenez, c'est ça ce qui les intéresse. C'est toute l'éducation que les parents doivent communiquer aux enfants, c'est de leur faire comprendre qu'on peut se faire avoir comme ça. Il y a même des contes qui ont été écrits, hein, qui disent « attention à la belle pomme, elle est bien rouge, mais dedans, etc. » Il y avait autrefois une éducation à travers les contes, qui au moins était intelligente parce qu'elle montrait les dangers. Hélas, aujourd'hui, on a largement dépassé ce stade et c'est bien triste. Donc, si vous voulez, ne soyez pas comme des pies. L'animal, l'oiseau, la pie, tout ce qui brille n'est pas or. Voilà ce que l'apôtre Paul veut dire à ses croyants. Sachez jauger, sachez peser, sachez examiner. Pourquoi ? Mais parce que c'était un problème énorme dans l'église de Corinthe. Dans l'église de Corinthe, il y avait une sorte de renversement de l'échelle de valeur. Celui qui faisait bien fonctionner sa langue avait la cote. Celui qui avait un ministère spectaculaire avait la cote. Celui qui était émotionnel avait la cote. On préférait le talent oratoire d'un Apollos à la sagesse spirituelle bien posée d'un apôtre Paul. Par contre, il y avait des scandales énormes dans le domaine de la sainteté. On tolérait l'inceste, on tolérait des comportements absolument odieux, des riches par rapport aux pauvres, etc., etc. N'est-ce pas ? Vous connaissez, pour vous qui connaissez cette église de Corinthe. Là, je vous en donne un exemple pour vous montrer comment les problèmes de Corinthe peuvent se retrouver aujourd'hui. L'auteur dit ceci, « Avec attention, j'étudiais les instructions de Paul à l'église de Corinthe. Il dresse une liste des diverses manières dont le Saint-Esprit agissait alors à travers les hommes. Il parlait en langue, interprétait ses langues, exerçait des dons de guérison, des miracles, des prophéties, de sagesse, de connaissance, de foi, de discernement. » Je vous fais simplement remarquer qu'il y a un problème. À savoir que l'apôtre Paul a précisément écrit 1 Corinthiens 12 à 14 pour remettre les dons dans leur ordre d'utilité au sein du corps de Christ. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre le don des langues et l'interprétation en avant, il les met à la queue. Lisez le texte. Et il est intéressant de voir donc que le problème qui se posait dans l'église de Corinthe, vous le retrouvez aujourd'hui, quand quelqu'un tellement imprégné d'une certaine mentalité va écrire sans se rendre compte qu'il tombe exactement dans le même piège de l'église de Corinthe. Il met en avant des dons spectaculaires, Et il met à la queue des dons comme la sagesse, la connaissance et le discernement que l'apôtre Paul mettait en tête de la part de Dieu. Voilà un simple petit exemple. Écoutez ce qu'un homme de Dieu qui est décédé dans les années 60 a écrit. Le concept ou le sens de la spiritualité varie selon les divers groupes chrétiens. Dans certains milieux, une personne à la voix forte, au verbe haut, et qui parle continuellement de religion est considérée comme très spirituelle. D'autres acceptent une exubérance bruyante comme une marque de spiritualité. Dans certaines églises, l'homme qui prie le premier le plus longtemps avec le plus de force est réputé être l'homme le plus spirituel de l'assemblée. Et si nous prenions le temps, mais je ne vais pas le faire, je vous raconterai certains exemples que j'ai vécus dans mon ministère et dans des pays étrangers aussi, qui étaient absolument flagrants dans ce domaine. Ou moi-même, au départ. En allant enseigner, j'étais impressionné et Dieu devait me rappeler, mais ne t'inquiète pas, reste stable, donne ce que tu as donné, tu verras clair plus tard. Tellement les ordres de valeur étaient renversés. Alors, regardez toujours dans 1 Corinthiens 14, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, nous avons vu de quel âge, mais pour la méchanceté, pour le mal, soyez des petits bébés. C'est un autre mot. Soyez des tout petits bébés. Et ça se comprend, nous l'avons dit tout à l'heure. D'une autre manière, un petit bébé, même, je dirais, quand il commence à gazouiller un petit peu, il va mettre son doigt dans la confiture, hein, sous votre nez. Oh, il est innocent. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas une nature pécheresse, mais il fait ça comme ça, parce que bon, pour lui, pas de problème. Quelque temps plus tard, quand vous l'éduquez, que vous lui dites « Tu ne mets pas ton doigt dans la confiture, si je te prends, tu auras des problèmes avec moi. Hein? » Ce qu'on fait de moins en moins aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend que vous ayez le dos tourné. Et je trouve qu'une des expériences les plus cruelles que nous vivons en tant que parents, c'est un jour de découvrir que nos enfants nous trompent. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais moi je me souviens de nos enfants petits, quand ils ont commencé à nous tromper, le sentiment, on le savait que ça arriverait. Mais pourtant, il y a quelque chose qui s'est cassé un petit peu à quelque part. On s'est dit, à partir de ce moment-là, attention. Vous comprenez? Tout petit, je n'ai pas les ficelles du métier de pêcheur. Vous comprenez? Je suis pêcheur. Mais je suis encore dans les... Hein, je suis dans la crèche, hein. Mais je vais un jour passer mon bac de pêcheur. Et il y en a qui montent très haut dans ce domaine. Vous comprenez? Alors là, l'apôtre Paul dit, non, je vous en supplie, restez des petits bébés dans le domaine du péché. Arrangez-vous pour ne pas développer une expérience. Et ça s'adresse à ceux qui disent, moi j'ai été élevé dans une famille chrétienne, j'ai été protégé et tout, moi je veux connaître ce qui se fait dans le monde. Alors l'apôtre Paul dit à celui-là, ah, vous voulez connaître ce qui se fait dans le monde. Restez donc des petits bébés dans le domaine du péché. Restez des petits bébés. Vous allez y perdre. Et il ajoute, n'est-ce pas, vous l'avez vu, à l'égard du jugement, justement, de jauger, d'apprécier, d'évaluer, de prendre la mesure des autres. Eh bien, soyez des hommes faits, c'est-à-dire soyez mûrs. Soyez des adultes, même pas des ados. Devenez le plus vite possible, sans bien sûr sauter les étapes, hein, parce que ça aussi on est tenté de le faire aujourd'hui, mais devenez vraiment, grandissez, passez du stade de l'enfance à celui de jeunes gens et de jeunes gens à celui de père, comme dit la première épître de Jean, grandissez bien, de manière à ne pas vous laisser avoir par le domaine du péché, soyez des adultes dans le domaine du jugement. Une des caractéristiques d'un croyant rempli de Christ, c'est un regard, c'est une écoute en profondeur, au-delà des mots, au-delà des attitudes. Notre problème, c'est que nous regardons trop à la surface des choses. Et ça, c'est un mal moderne. Nous sommes dans un environnement qui nous pousse dans cette direction. Parce que du matin au soir, partout où nous allons, nous allumons la radio, la télévision, nous regardons les journaux, nous allons dans la rue, nous allons dans les magasins, partout, on nous invite à nous laisser avoir par les apparences. C'est pourquoi cet enseignement est d'une importance capitale. L'homme spirituel, 1 Corinthiens 2,15, sonde tout littéralement. Et le verbe grec est un verbe assez particulier. Il examine avec discernement, il apprécie les faits, les idées à leur juste valeur, il se forme un jugement. Le mot est utilisé pour parler d'un juge qui prépare son dossier, qui ajoute des pièces dans son dossier peu à peu, il interroge les personnes, il confronte les situations, etc. C'est exactement le terme qui est utilisé ici. Je dois, sur ce plan, agir comme un juge. Et il le fait pour le bien de la société. Parce qu'il faut qu'à quelque part, la justice triomphe sur la terre. Dire si elle triomphe actuellement, c'est une autre question. L'homme de Dieu que je citais tout à l'heure sur le concept et le sens de la spiritualité ajoutera ceci: quand Dieu regarde une chose, il voit en même temps au travers d'elle. Son regard ne se limite pas à l'aspect extérieur, il pénètre jusqu'au sens réel des choses. Le chrétien charnel regarde à un objet ou à une situation, mais parce qu'il ne voit pas au travers, il est ébloui ou effaré par ce qu'il voit. L'homme spirituel est capable de regarder au travers des choses comme le fait Dieu et de penser d'elle ce qu'en pense Dieu. Il s'oblige lui-même à voir les choses comme Dieu les voit, même si cela l'humilie et dévoile son ignorance jusqu'au point d'une authentique souffrance. Le chrétien est spirituel lorsqu'il voit tout du point de vue de Dieu, être capable de peser toutes choses dans la divine balance et leur donner la place que Dieu leur assignerait. Voilà la marque d'une vie remplie de l'esprit. Et je crois que nous devons avoir cet objectif. Il est d'une importance capitale. Notre objectif prioritaire, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Fondamental. Je vise dans ma vie la transformation de ma personne à la ressemblance de Jésus-Christ. Et à l'intérieur de ce programme, je dois apprendre à voir avec le regard de Christ. Et je ne peux le faire que dans mon intimité avec le Seigneur. D'ailleurs, j'y arrive, et c'est notre conclusion pour ce soir, bien qu'il y ait tant d'autres choses à dire. Vous vous dites ce soir, j'en suis persuadé pour certains d'entre vous, mais mes frères, maintenant je vais faire un ulcère à l'estomac. Je risque de craquer parce que, en fait, frère, vous m'invitez à une vigilance, mais est-elle possible? Comment faire pour être gardé? Est-ce que ce n'est pas une tension de chaque instant? Est-ce que justement je ne vais pas être tenté par une certaine agressivité, par une méfiance maladive? Est-ce que je ne risque pas de tomber, n'est-ce pas? Alors j'aimerais, en terminant, vous dire trois choses. Je ne les développerai pas, mais elles sont faites pour nous encourager, je dirais, à ce que j'appellerais une vigilance paisible. Dieu ne veut pas que nous soyons de ces chrétiens tendus, inquiets, toujours dans la peur, rentrant la tête dans les épaules en se disant « je risque de tomber ». Il ne veut pas cela. Dieu veut de notre part une vigilance paisible. Et cette vigilance paisible dépend en réalité, en tout cas au moins, de trois éléments. Le premier élément, c'est d'être rempli des Écritures. Être rempli de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu, littéralement, comprenez dans quel sens je le dis, coule dans nos artères. Que nous en soyons imprégnés. Pourquoi l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, dans nos pays, est-elle dans un tel état? Sinon parce que nous ne sommes plus le peuple de la Bible. On s'est quand même appuyé sur les Écritures continuellement dans nos deux études. On le fera encore demain. Être rempli des Écritures, c'est ce que dit le texte dans Colossiens chapitre 3, verset 16, n'est-ce pas? Lorsqu'il est dit, c'est un des plus beaux textes des Écritures sur le sujet, que la parole de Christ, la parole de Dieu, les Écritures, c'est la parole de Christ. Ancien et Nouveau Testament, elle est parole de Christ. Qu'elle demeure en vous dans toute sa richesse. Dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Être habité par la parole de Dieu. Fuir l'ignorance et la superficialité. Vous savez, quelqu'un l'a écrit avant moi, il faut la Bible entière pour faire un chrétien entier. Là aussi, il y a une question d'équilibre. Nous avons besoin d'une diététique dans le domaine spirituel, à moins que nous ayons envie de devenir, je ne sais pas quoi, artériosclérose, cholestérol, quoi encore, diabète, tout ça, ça existe dans le domaine spirituel, n'est-ce pas? Si nous n'avons pas ce voyage dans la totalité des Écritures. Fuir l'ignorance et la superficialité. Si nous sortons un texte de son contexte, nous obtenons un prétexte pour justifier notre péché. L'ignorance, mes bien-aimés, tue. Oui. L'ignorance tue. Il n'y a qu'au début de la vie chrétienne que l'ignorance ne tue pas. Vous savez, parce que le Seigneur sait que quand on est tout petit bébé, on a besoin d'une protection spéciale. Alors de la même manière qu'il a prévu une protection spéciale dans le lait de la maman, etc. Vous savez, hein, ça existe dans le domaine spirituel. Dieu est un Dieu juste. Et dans la petite enfance, il met le paquet, si vous voulez, pardon de le dire comme ça, pour nous protéger. Il nous donne des moyens particuliers. Mais ça, c'est bon pour la toute petite enfance. Parce qu'il sait que nous ne sommes pas encore instruits. Mais un bébé de 40 ans, ça pose des problèmes. Je dis que l'ignorance tue, l'ignorance entretenue tue. Au début du siècle, vous connaissez Marie Mellon? Ah, Marie Mellon. Marie Mellon, au début du siècle, habitait New York. Et elle a tué 1300 personnes avec ses mains. Elle était cuisinière et elle allait de maison en maison et partout où elle passait, d'abord les vieillards, les enfants mouraient, puis après d'autres personnes. Et on a fini par faire à New York les relations de cause à effet. Et le conseil municipal de New York l'a finalement enfermée une première fois dans un pavillon. Et puis au bout de cinq ans plus tard, le conseil municipal de New York a changé et donc on l'a sortie. Et elle a continué à faire son travail et elle a continué à tuer. Jusqu'à ce qu'on se rende compte à nouveau du problème et on l'a finalement enfermée 5 ans plus tard pour une durée de 27 ans jusqu'à sa mort. Tout simplement parce qu'elle était, on dirait aujourd'hui, séropositive. Elle avait la typhoïde, le bacille qu'elle transportait avec elle dans ses mains. Vous comprenez? Elle n'était pas malade. Mais le bacille était là, on l'a appelé Marie typhoïde. Et partout où elle passait, les gens, faibles, fragiles, etc., attrapaient la typhoïde. Ignorance entretenue. Une ignorance qui tue. Deuxièmement, et cela est indissociable, connaître... Oh, non, je ne peux pas éviter ça. Je voudrais juste... vous raconter une petite histoire qui va aussi vous aider à comprendre l'importance des Écritures. Non pas l'importance de connaître les témoins de Jéhovah, les mormons et les quelques 800 sectes que nous répertorions en tant qu'évangélique en France. Le gouvernement en répertorie 200. Parce que ça aussi c'est le problème. Est-ce que je dois me plonger dans tous les ouvrages qui évoquent les sectes, qui sont souvent des ouvrages très compliqués? Hein, prenez les Rosicruciens et d'autres et vous allez passer quelques belles nuits blanches et vous n'aurez rien compris en arrivant à la fin parfois. Et ça c'est le problème qui se pose à nous. Alors permettez-moi quand même de vous raconter avant de terminer cette histoire d'un garçon d'origine chinoise qui voulait en apprendre davantage au sujet du jade. Alors on lui recommande un vieux professeur qui savait tout sur le jade. Il va voir ce vieux professeur et il lui dit, écoutez, j'aimerais bien connaître le jade. Est-ce que vous pouvez? Je viens pour un cours sur le jade. Le professeur commence par lui mettre une pierre de jade dans la main. Et lui donne son cours pendant une heure. Et pendant une heure, il va lui parler de tout, sauf du jade. Alors au bout d'une heure, quand il repart, après avoir redonné la pierre à son professeur, il se dit, mais est-ce que je dois revenir? Je suis en train de perdre mon temps. Alors il se renseigne à nouveau et on lui dit, mais ne t'inquiète pas, ce monsieur est un savant dans ce domaine. Est-il sénile ou quoi? Mais retourne. Allez, retourne. Le professeur lui met la pierre de jade dans la main, il recommence à discuter de tout sauf du jade. Et cela va se passer, c'est une histoire vraie, pendant quelques semaines. Et au bout de quelques semaines, quand le jeune homme est presque au comble du désespoir, le professeur l'accueille pour une dernière leçon dans l'esprit du jeune. Le professeur lui met une pierre dans la main et le jeune immédiatement s'écrie « Mais monsieur le professeur, ce n'est pas du jade que vous m'avez donné !» Et le professeur de lui dire simplement « Écoute, jeune homme, maintenant tu sais tout sur le jade. » Je pense qu'ensuite il lui a donné un enseignement. Mais il a voulu lui indiquer quelle était la meilleure manière de faire différence entre ce qui est jade et ce qui ne l'est pas, au toucher. Ce jeune homme avait tellement pris l'habitude de tenir cette pierre de jade heure après heure, qu'il en était venu à pouvoir faire la différence simplement au toucher. Et pour moi, c'est une parabole. Ce qui est important, c'est pas d'abord de connaître le contenu de toutes les sectes, mais c'est de pouvoir faire la différence au toucher simplement à cause de notre connaissance de la parole de Dieu. Si vraiment nous nous imprégnions de la parole de Dieu et que, deuxième point, nous avons une connaissance personnelle de Christ, une relation intime avec lui, jour après jour, mes amis, nous n'aurons pas besoin de grandes leçons sur les témoins de Jéhovah, etc. Très vite, nous allons détecter bien des choses. Alors l'Église sera là avec ses ministères d'enseignement pour nous donner des enseignements plus précis, plus pointus sur les sectes, etc. Mais je veux dire que c'est pas par là que ça commence. Ayez une intimité avec le Seigneur, dans sa parole. Et cela va être une aide extraordinaire pour faire face aux discours séduisants. Et bien sûr, cela va de soi, aimer l'Église locale.